de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Les musiques de films de Toru Takemitsu, c'était le titre de la série des trois émissions que, dans Carnet de notes, Philippe Langlois consacrait en 2001 à l'un des grands compositeurs japonais du XXe siècle. La presque centaine de films dont il signa la musique sur une quarantaine d'années témoigne de l'importance du cinéma dans l'œuvre de Toru Takemitsu. Les noms des réalisateurs avec lesquels il collabora témoignent, eux, de l'importance de Toru Takemitsu dans l'histoire du cinéma japonais. Naruse, Kurosawa, Kobayashi, Teshigara ou encore Imamura, Shinoda, Oshima. Dans le premier de ses carnets de notes, il est en particulier question de La Femme des Sables, le film de Hiroshi Teshigara, récompensé du prix spécial par le jury du Festival de Cannes de 1964, présidé par Fritz Lang.
Il me semble, Philippe, que c'est aujourd'hui le premier volet de trois émissions que vous consacrez à Toru Takemitsu, compositeur de cinéma.
En effet, Marlène, Toru Takemitsu est certainement l'un des compositeurs japonais les plus prolifiques et les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. Plus que tout autre, il a consacré sa carrière, toute sa vie durant, à la musique de film. De 1956 à 1996, il compose 93 partitions pour le cinéma, dont certains chefs-d'œuvre du cinéma japonais, comme Kwaidan, Ran, La Femme des Sables ou L'Empire de la Passion. Composer pour le cinéma lui a également permis de côtoyer les réalisateurs japonais les plus respectés, tels Kurosawa, Kobayashi, Teshigahara, Imamura, Shinoda, Oshima, pour constituer un ensemble de partitions cinématographiques tout à fait intéressantes. Nous aurons le plaisir d'entendre Alain Poirier sur ce sujet, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique à Paris, auteur en 1993 de l'ouvrage Toru Takemitsu, publié par le festival Octobre en Normandie. Alain Poirier.
On peut voir que les premiers essais de Takemitsu datent déjà de 1956, alors qu'il n'était qu'un jeune compositeur, et que même, je dirais qu'en tant que compositeur tel que nous le connaissons, ses premières grandes œuvres ne sont pas encore composées. Le Requiem date de 1959, par exemple. Donc Takemitsu a été mis en contact très rapidement avec ce monde visuel et sonore. Et puis il faut rappeler également qu'il travaillait dans un groupe artistique, disons, où se mêlaient des expériences très diverses, alors lui en tant que musicien-compositeur, mais il y avait aussi un cinéaste, il y avait aussi un rapport aux arts plastiques. Et donc il a été sensibilisé très tôt à cette notion de complémentarité, ou du moins de comment faire vivre une musique par rapport à des images et par rapport à un scénario et un déroulement dramatique. Et en même temps, lorsqu'on regarde la liste des films qu'il a écrit, des musiques de films, ça va jusqu'en 1995, donc ça jalonne complètement sa vie.
Les
Les réalisateurs essayaient de faire des films autrement.
En dehors des circuits commerciaux des grands studios.
Et en se servant de la caméra plus librement. Il y avait d'autres influences, comme le cinéma vérité, bien sûr. Évidemment, nous, musiciens, voulions essayer des choses nouvelles, tout comme les réalisateurs. Parmi les nombreuses expériences sonores qu'il tente dans ses musiques de films, Toru Takemitsu a, dès 1952, employé le piano préparé. Comme son nom l'indique, il s'agit de préparer le piano à queue avant de jouer en plaçant toutes sortes d'objets directement sur les cordes, de sorte que lorsque l'on joue, le son se trouve complètement altéré. Toru Takemitsu. Le plus important, c'est d'abord d'établir un son. Un son qui laisse une forte impression. J'essaie de minimiser la musique qui vient du film. Quand je regarde les rushs d'un nouveau film, quand il n'y a que les dialogues et aucun autre son, si c'est vraiment un bon film, même sans aucun son parfois, je peux déjà entendre la musique. Le traquenard d'Hiroshi Teshigahara, 1952. Ce qui est frappant chez Takemitsu, c'est la manière avec laquelle il mêle tous les genres et tous les styles dans ses partitions, autant dans ses musiques dites savantes que ses partitions pour le cinéma. C'est ainsi que l'on retrouve les influences de la musique baroque d'Henri Kyu, dont nous entendons un extrait à l'instant, le jazz dans José Torres, des sons abstraits et des mélodies qui rappellent Kurt Weill, dans Le visage d'un autre, de la musique concrète également dans Kwaidan, mais également des éléments de musique traditionnelle japonaise. Takemitsu semblait jouir d'une liberté sans bornes, lui permettant d'aborder tous les styles, tous les genres musicaux, et fait marquant pour un compositeur contemporain, sans aucune discrimination. Alain Poirier.
Une fois de plus, c'est bien un compositeur qui a construit son style à partir de petits éléments ou d'éléments tout à fait divers, parfois assez antinomiques. Il a été très intéressé à un moment par la musique sérielle, il a été très intéressé par la musique électronique, électroacoustique, il a été très intéressé par Messiaen, et de façon très générale, Messiaen et Debussy, qui restent deux compositeurs très forts dans son imaginaire. Mais il a été influencé, comme vous l'avez dit, par le jazz ou par d'autres sources. À un autre moment, ce seront les instruments traditionnels et la musique traditionnelle japonaise, spécifiquement. Donc, je crois que c'est quelque part, ce qu'on a pu appeler dans un autre contexte, c'est peut-être l'un des compositeurs, et je l'associerai volontiers avec Messiaen personnellement dans ce contexte, un compositeur qui a presque effleuré une forme élaborée, je dirais, de world music. C'est-à-dire une musique qui finalement est très personnalisée, d'abord parce que à l'écoute de la musique, des musiques de films de Takemitsu ou de sa musique savante, on a véritablement le sentiment de cette appartenance à une tradition et la tradition de ses propres racines, bien entendu, qui finit par ressortir très fortement, mais en même temps qui s'est véritablement nourri dans ce voyage imaginaire entre le Japon et l'Occident. On aurait presque l'impression que Takemitsu a fait véritablement le voyage et qu'au cours de son voyage, il a engrangé, il a ramassé et il s'est nourri de toutes ces découvertes.
Écrire de la musique de film, c'est comme obtenir un passeport, un visa pour la liberté. Un passeport pour la liberté.
Oui.
Commande-nous.
Dans La Femme des Sables, bien que j'ai utilisé de vrais instruments de musique, tous les sons ont été modifiés, en haussant brusquement la tonalité de 5 tons. L'atmosphère et l'émotion se trouvent alors totalement modifiées. C'est pourquoi la musique de ce film a un tel impact psychologique.
Thank you.
d'une façon générale, ce qui me frappe beaucoup dans le cas des partitions sonores pour les films composés par Takemitsu, c'est le fait que l'on remarque la musique. La musique, on l'entend en tant que telle, et c'est toujours le problème de la relation entre le son et l'image dans ce cas précis. Soit on la remarque trop, et donc elle est peut-être trop envahissante et sans grand intérêt, soit on ne la remarque pas, et c'est peut-être autre chose. La musique de Takemitsu, du moins la bande sonore de Takemitsu, est toujours remarquable en tant que telle, parce que Takemitsu a réussi à l'intégrer directement, comme s'il l'avait incrusté dans l'image. L'exemple de la femme des sables que vous avez cité, avec cette transposition et cette façon de la rendre omniprésente dans un monde qui a l'air de bouger mais qui ne bouge pas tout en étant en perpétuelle mutation, il arrive à travailler entre le mobile et l'immobile d'une façon absolument formidable. Là, la musique ajoute énormément au film d'une façon absolument extraordinaire. C'est un des exemples probablement les plus impressionnants, je dirais, de la participation de Takemitsu au cinéma. Également l'idée de, comment dire, je dirais presque de la solitude de cette prison naturelle et en même temps qui est complètement obsédante, cette vie et ce cauchemar dans lequel est plongé ce professeur entomologiste est une chose qui n'aurait pas pu être rendu à ce point sans le poids de la musique, sans la présence de la musique. Et quand je dis présence de la musique, il ne s'agit pas, encore une fois, de constater une présence au premier degré comme une chose vraiment au premier plan. Elle n'est pas forcément au premier plan, mais en même temps, elle est un contrepoint véritablement de l'image unique en son genre. Enfin, je connais très peu d'exemples de cette force dans le cinéma, qu'il soit japonais ou non.
Dans L'Empire de la Passion de Nagisa Oshima en 1978, l'une des scènes les plus marquantes met en scène une femme transportée dans une lande brumeuse et mystérieuse par celui qu'elle croit être son mari, alors qu'il s'agit en réalité du diable en personne, Alain Poirier.
Oui, la scène à laquelle vous faites allusion est extrêmement forte. À un moment où cette femme effectivement crie le nom de son mari, Kaziburo, et qu'elle sollicite mais qu'elle ne comprend pas et qu'elle prend panique, bien évidemment, devant la situation. La musique, là, aurait tendance peut-être à plus coïncider aux images, mais en même temps, elle prépare, le crescendo est tel que lorsque, précisément, celle qu'elle pourrait penser son mari se retourne, et donc on voit ce visage complètement irréel et absolument horrible en lui-même, est un choc considérable parce qu'il a été très longuement préparé et par paliers très successifs. Tout ça a été étudié de telle manière à ce que le choc de cette image soit le plus fort possible. Je crois qu'il l'est, d'autant plus qu'on est dans un contexte très fantastique et qu'on est totalement en haleine, je dirais, et qu'on participe à cette frayeur. Donc là, la musique est d'une efficacité absolument fabuleuse.
C'est avec la musique d'Aurine Le Proscrit que s'achève cette émission, et je vous signale l'excellent documentaire de Charlotte Sferin sur ce sujet, un documentaire produit par La 7, Arte et les films d'ici. Attaché de production Claire Poinsignon, mixage Claude Courteau et Jacques Vinson, réalisation Gilles Mardy-Rossian, cette émission vous est proposée par Philippe Langlois.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 8 octobre 2001 sur France Culture. À suivre. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Thank you.